Bonjour à tous.
Alors, Michael a introduit notre nouvelle série cette année, enfin dans les mois qui viennent, sur le livre de l'Exode, la semaine passée. Donc, aujourd'hui, nous allons attaquer le premier épisode de cette série. Alors, pour commencer, je voudrais diffuser une vidéo qui devrait certainement parler et faire plaisir aux personnes qui ont grandi dans les années 90, qui ont à peu près mon âge. Alors, cette vidéo servira également de mise en contexte, mise dans le contexte. Il s'agit en fait des premières minutes du film d'animation Le Prince d'Égypte, sorti en 1998. Alors, l'histoire est légèrement romancée, mais elle est tout de même assez fidèle au texte. Et les quelques libertés qui sont prises par rapport au texte biblique sont sans grandes conséquences dans la compréhension globale. Donc, j'ai trouvé que cette introduction du film était assez fidèle quand même par rapport au texte. Et la suite de l'histoire, nous la trouvons donc dans le second chapitre de l'Exode. Donc aujourd'hui, on va traiter les deux premiers chapitres. Et la suite de ce qu'on a vu se trouve donc dans le deuxième chapitre à partir du verset 5. Je vous invite à lire ça, les deux premiers chapitres chez vous, pour vous remettre encore plus dans le contexte. Donc à la suite de ce que nous venons de voir, la sœur de Moïse va aller vers la fille du Pharaon pour lui proposer une nourrice qui pourra allaiter l'enfant. C'est ainsi que la propre mère de Moïse va pouvoir élever son fils, mais cette fois-ci dans un tout autre contexte, puisque son fils va être protégé par la noblesse égyptienne au lieu d'être tué ou maltraité comme les Hébreux, normalement. Le texte nous dit ensuite qu'une fois adulte, Moïse semble avoir compris qu'il était en fait, en quelque sorte, une pièce rapportée dans la cour égyptienne, et qu'en réalité, il était hébreu. Il voit alors un Égyptien qui maltraite un Hébreu, et il va défendre cet Hébreu jusqu'à tuer l'Égyptien et le cacher dans le sable. Par la suite, il va s'enfuir dans le désert pour échapper à la mort, parce que le Pharaon va chercher à le faire mourir. Et c'est alors qu'il va aller dans le pays de Madian et qu'il va épouser la fille du prêtre madianite, et qu'il va avoir un enfant. Alors, ces premiers récits du livre de l'Exode sont fascinants. Ils sont fascinants parce qu'ils nous racontent l'histoire d'une renaissance, quelque part. Une renaissance d'un peuple. Ou alors, tout simplement, le début du renouveau d'un peuple. Et cette succession de petites péripéties nous donne des indices sur quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand qui se passe en arrière-plan. Alors, à travers ce récit d'aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans quelques détails marquants de cette histoire pour ensuite faire un zoom arrière et voir le tableau un peu plus global. Michael nous avait parlé de l'œil, de la loupe et du microscope la semaine dernière. On va aller du microscope vers l'œil et même un peu plus haut. En résumé, nous allons voir quelque part ce récit comme une histoire de succession de choix personnels. Et cette histoire de succession de choix est inscrite dans l'histoire, avec un grand H, d'une promesse. Une histoire de choix. Entre la fin de la Genèse et le début du récit de l'Exode, il se passe environ 4 siècles, 400 ans. 400 ans durant lesquels les Hébreux vont se multiplier. Des 70 personnes au départ du temps de Joseph, ils ont presque rempli l'Égypte maintenant, au moment de notre récit. Alors c'est une multiplication assez spectaculaire qui, au-delà d'un certain poids démographique, un poids démographique certain, pourrait également s'accompagner d'un poids peut-être politique et très certainement d'un poids économique très fort. On peut voir ici que, de tout temps, l'homme a toujours eu peur de ce qu'il ne peut pas maîtriser, de ce qu'il ne peut pas maîtriser complètement. Et du coup, ici, on a un personnage, le pharaon, qui a peur. Il a peur d'une instabilité, que pourraient provoquer les Israélites, peut-être, ou une peur de l'alliance de ces Israélites avec une puissance étrangère et qui pourrait menacer tout simplement son pouvoir. Les Égyptiens étaient devenus minoritaires dans leur propre pays. Et le pharaon va faire un premier choix, qui va être lourd de conséquences. Il va contraindre les Hébreux à des travaux pénibles, il va les fatiguer, sûrement pour diminuer leur force, pour éteindre tout besoin ou tout esprit de rébellion, et pour les limiter. Mais l'effet va être quelque part contraire à ce qui est voulu. Le peuple n'a pas cessé de croître. Alors le pharaon va aller plus loin. Non seulement il va les contraindre physiquement, il va aller les réduire en esclavage. Après la réduction à l'esclavage, il va ordonner à ce qu'on tue les nouveau-nés garçons dès la naissance. Et pour ça, il va charger deux sages-femmes de faire cette tâche ingrate. Par la suite, quand il voit que ces ordres n'ont pas été suivis et que la population continuait de croître, il va encore aller plus loin. Et il va, cette fois-ci, ordonner à tous ses sujets de jeter dans le fleuve les bébés garçons. Donc, il ne demande plus seulement aux sages-femmes, mais à tous ses sujets. Dans ce premier focus, donc, on voit cet homme, le pharaon d'Égypte, qui a fait une série de choix en pensant se préserver lui-même et préserver son pays. Le texte semble suggérer une certaine graduation des choix et des décisions qu'il prend. C'est allé crescendo, en quelque sorte. Il a commencé par accabler les Israélites, puis il les a réduits en esclavage, ensuite il a ordonné aux deux sages-femmes de tuer les bébés, et enfin il a ordonné à tous ses sujets de tuer ces bébés garçons en les jetant dans le fleuve. Et qu'est-ce qui a pu motiver cet homme à prendre des décisions comme ça, à faire ses choix ? La peur, tout d'abord, comme on l'a dit, puis sûrement aussi une certaine soif de pouvoir, au point de vouloir le maintenir à tout prix, quitte à faire preuve d'une extrême cruauté. Mais dans ces ténèbres de cruauté, on va voir qu'il y a deux petites lumières qui vont scintiller. Nous savons ces deux sages-femmes, ces deux femmes, nommées Shiphra et Pua, je prononce peut-être mal, Shiphra et Pua, qui vont recevoir l'ordre de tuer les nouveau-nés. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont ignorer totalement cet ordre. Elles vont faire le choix de désobéir, et ainsi elles vont laisser la vie sauve aux petits garçons qui naissent. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Au-delà d'une humanité et d'un instinct maternel certain qu'elles devaient avoir, la réponse à cette question nous est donnée au verset 17 du premier chapitre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Elles devaient sûrement aussi craindre la personne la plus puissante du pays, le pharaon. Mais elles craignaient Dieu plus que le pharaon. Elles décident d'obéir à Dieu. Et en obéissant à Dieu, elles désobéissent au roi, elles désobéissent au pharaon. Elles savent que donner la mort est contraire à la volonté morale de Dieu. Même si le commandement « tu ne tueras point » ne sera donné formellement que bien plus tard dans les tables de la loi, et on le verra dans la suite de notre série. À cause de ce qu'elles ont fait, elles vont se faire convoquer devant le Pharaon pour s'expliquer, et elles vont avoir le courage de répondre qu'en fait, à leur arrivée auprès des femmes, les bébés sont déjà sortis. Elles ne peuvent plus rien faire, ce qui peut être vrai. Comment, en fait, gérer autant de personnes, autant de naissances à deux personnes? C'est un peu un désert médical avant l'heure. Mais la réalité va au-delà de leurs réponses. Elles ont tout simplement décidé de ne pas tuer. Le choix de ces deux femmes, le choix que ces deux femmes ont fait, va avoir deux conséquences. La première, le peuple hébreu va prospérer. Il va devenir extrêmement puissant, comme nous le dit le verset 20. Et la deuxième, le Pharaon va amplifier son action et va demander non plus à ses sages-femmes, mais à tous ses sujets, de jeter les bébés dans le fleuve. Dans ce climat de terreur et d'oppression, un bébé en particulier, un petit garçon, va naître dans la clandestinité la plus totale. Il va être caché par sa mère pendant 3 mois. Cette femme va faire le choix de laisser la vie sauve à son petit bébé. Et au-delà de ça, elle va prendre une décision qui est assez lourde, celle de l'abandonner sur les rives du Nil dans un certain geste de désespoir pour peut-être espérer quelque part qu'il puisse vivre. Elle va décider donc de laisser son fils sur le fleuve, dans ce même fleuve où Pharaon a ordonné que l'on jette les enfants garçons pour les faire mourir. Quelle ironie, mais aussi quel courage de la part de cette femme. Un autre personnage, la grande sœur du bébé, va suivre le panier et va voir que la fille du Pharaon, qui était venue là pour se baigner, va apercevoir le panier, va le prendre, va se rendre compte qu'il y a un bébé dedans, il va recueillir ce bébé. Elle sait pertinemment que c'est un petit des Hébreux. On le voit dans le chapitre 2, au verset 6. Mais elle a eu pitié de ce bébé. Et c'est là que, dans un élan de courage, la sœur de Moïse va sortir et s'adresser à la fille du Pharaon en lui proposant de trouver pour elle une nourrice qui pourrait allaiter le bébé. Et c'est par la suite que la propre mère de Moïse va devenir la nourrice de ce bébé, va l'élever, mais dans un autre contexte. Elle n'est plus, cette fois-ci, dans la clandestinité. Elle est en train d'allaiter son fils, qui lui-même a été adopté par la fille du Pharaon. Et elle est même payée pour ça. Une fois adulte, Moïse comprend, en comprenant finalement qu'il appartenait au peuple opprimé en Égypte, il a voulu agir de son propre chef pour sauver un de ses compatriotes qui se faisait opprimer. Mais le résultat, c'est qu'il a été rejeté par les siens. Et à cause de ça, il a dû fuir. Peu de temps après, il a été accueilli finalement par un peuple du désert et il va rester un long moment. Alors on va s'arrêter ici pour regarder cette histoire avec un peu plus de hauteur. Une succession de choix, bons ou mauvais, ont des conséquences assez marquées. Pharaon, qui réduit tout un peuple en esclavage, toujours ce même Pharaon qui fait tuer des nouveau-nés, dans tout cela, deux femmes qui font le choix de désobéir en laissant la vie sauve au bébé, la mère d'un bébé qui fait le choix de l'abandonner, la fille du Pharaon qui a fait le choix de recueillir l'enfant, la sœur de ce bébé qui a le courage de s'adresser à la fille du Pharaon, Moïse qui commet un meurtre et qui s'enfuit, et le prêtre madianite qui a fait le choix de recueillir Moïse réfugié. Une succession de choix. Et nous, aujourd'hui, dans nos vies, quel choix faisons-nous ? Sommes-nous prêts à tout pour atteindre nos ambitions, même les plus folles ? Sommes-nous comme le pharaon qui écrase, opprime et tue pour assouvir son ego, sa soif de posséder et ses projets ? Alors, sans aller peut-être aussi loin, et pour être un peu plus concret dans nos vies actuelles, serions-nous peut-être prêts à dénigrer nos collègues pour accéder au poste que nous convoitons ? Sommes-nous capables d'oppresser nos voisins pour essayer de les faire déménager parce qu'ils nous dérangent ou parce qu'on convoite leurs biens ? Sommes-nous prêts à mettre la pression à nos enfants pour qu'ils puissent assouvir nos propres ambitions ? Etc., etc., etc. Maintenant, face à des choix qui font appel à notre intégrité devant Dieu, qui vont mettre à l'épreuve notre foi, sommes-nous comme ces sages-femmes ? Mettons-nous la volonté de Dieu au-dessus de toute autre volonté ? Au-dessus de toute autre volonté qui va à son encontre ? Cela va peut-être aussi et sûrement soulever des questions d'éthique, des questions de morale, des questions de mœurs dans la société occidentale dans laquelle nous vivons. Les normes d'aujourd'hui vont parfois totalement à l'encontre de la morale divine, alors sachons être fermes et sachons tenir ferme. Avons-nous l'amour de la mère de Moïse pour son enfant ? Avons-nous le courage de la sœur de Moïse face aux défis qui nous font face ? Je pense que s'adresser à la fille du Pharaon pour une Israélite quelconque, esclave, devait être quelque chose qui n'était pas permis à l'époque. Mais par amour pour son petit frère, elle a eu ce courage. L'avons-nous aussi, ce courage, lorsque nous devons prendre la défense d'un frère ou d'une sœur ? Sommes-nous prêts à renverser les normes comme l'a fait la fille du Pharaon en adoptant délibérément ce bébé alors qu'elle aurait tout simplement dû le noyer, puisque c'est son propre père qui a donné cet ordre ? Non pas renverser les normes pour mettre le chaos ou créer l'anarchie, mais renverser les normes qui n'auraient pas lieu d'être. Ensuite, sommes-nous des jeunes Moïse en puissance, avec le zèle, la fougue, l'impatience, la force qui nous fait avancer vite, peut-être un peu trop vite, sans réfléchir et avec nos capacités que nous savons pourtant limitées. Il était ému par le sort de son compatriote, il a voulu sauver son frère, mais il a fini par commettre un meurtre. Lui qui a été sauvé de la mort a fini par la donner. Il sauvera bien son peuple, bien sûr, mais bien plus tard, et non selon sa manière, mais selon celle de Dieu. Chers amis, laissons Dieu agir et laissons-le agir en son temps. Ayons la patience d'accepter lorsque le temps se fait long, parfois même très très long. Dieu est peut-être en train de nous préparer, Dieu est peut-être en train de nous former. Dans ce climat de méfiance et de peur que nous vivons, peur justifiée ou non, savons-nous accueillir comme le prêtre madianite l'a fait ? Savons-nous faire preuve de compassion et d'accueil envers ceux et celles qui ne nous ressemblent pas ? Avons-nous toujours nos préjugés ? Alors ne me voyez surtout pas comme un donneur de leçons. Si j'ai vu ces exemples, c'est parce que je suis, comme tout le monde, je suis bien loin de la perfection dans mes, dans mes agissements ou dans mon comportement. Mais avec la grâce de Dieu, nous avançons à son rythme et selon sa volonté. Maintenant, je vous propose de faire encore un zoom en arrière et de voir ce qui se passe en arrière-plan de tous ces petits focus que nous avons eus sur ces personnes. Dans cette histoire de choix, l'histoire avec un petit H, nous avons l'histoire d'une promesse, l'histoire avec un grand H. Tout d'abord, la promesse d'un peuple. En Genèse 17, verset 6, Dieu parle à Abraham en disant « Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. » Exode 1, verset 5, « Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. » Exode 1, verset 7, « Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli. » Exode 1, verset 12, « Plus on les opprimait, les Israélites donc, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient. » Exode 1, verset 20, « Le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. » Derrière toutes ces péripéties que nous avons vues avant, il y a un plan parfait qui se déroule. Dieu n'est pas resté sans rien faire. Il a fait la promesse à Abraham de multiplier sa descendance, alors même qu'il n'a eu qu'un fils, et dans sa vieillesse. Alors Abraham n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse, mais elle a bien été tenue. Les Israélites sont tellement nombreux qu'ils ont suscité la peur chez le Pharaon. Mais c'est loin d'être fini. Dieu a utilisé à la fois la dureté du Pharaon et la douceur des sages-femmes pour accomplir son plan divin. Par l'oppression, le peuple s'est multiplié et par l'action des femmes, il a prospéré. Si je vous dis un chiffre, 505 millions, à quoi est-ce que ça peut vous faire penser ? C'est pas la population française. Non. En fait, c'est l'estimation du nombre de chrétiens en Europe aujourd'hui. 2,6 milliards. Ça serait l'estimation du nombre de chrétiens dans le monde. Alors bien sûr, ce nombre peut être sur ce nombre de 2,6 milliards, il y en a peut-être moins qui sont réellement chrétiens nés de nouveau, mais ce chiffre est tout de même parlant. Dans le Cid, Corneille avait écrit « Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. » Aujourd'hui, nous pourrions dire « Nous partîmes 70 en Égypte, mais par la grâce de Dieu, nous vîmes 2,6 milliards en 2025. La promesse d'un peuple. La promesse ensuite d'un sauveur. En Genèse 3, 15, Dieu parle au diable, incarné par le serpent, en disant « Celle-ci t'écrasera la tête », en parlant de la femme et de sa descendance. Alors les théologiens s'accordent sur le fait que ce texte annonce la victoire ultime de Christ à la croix, victoire sur le mal et sur la mort. Par un parallèle, on peut voir une similitude ici avec l'histoire de Moïse. Alors je vais volontairement spoiler un peu la suite de la série, mais sans véritablement la spoiler, puisque je pense que beaucoup savent déjà que Moïse va sauver les Israélites. Mais ce sera une victoire de Dieu à travers Moïse, notamment, une victoire de Dieu sur le mal, incarnée ici par le Pharaon. En regardant l'histoire de Moïse, nous pouvons voir plusieurs parallèles avec l'histoire de Jésus. On peut qualifier ici Moïse comme étant ce qu'on appelle un type de Christ. par la décision de la mère biologique de Moïse et par la compassion de sa mère adoptive, celui qui viendra sauver le peuple plus tard aura la vie sauve dans un premier temps. De la même manière, Jésus a échappé à la mort que lui voulait Hérode peu après sa naissance. Une petite anecdote, quand j'étais petit à l'école du dimanche, je confondais tout le temps Moïse et Jésus. Quand j'entendais cette histoire d'oppression de bébé qui devait, qui devait être tué, je ne savais pas de quoi on parlait. Est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est Moïse ? Ça, c'était mon esprit un peu limité de l'époque. Donc c'est pour vous dire que qu'il y a une grande similitude. Moïse allait être celui qui, par un renouvellement, une certaine recréation, en quelque sorte, il était celui par qui cette recréation allait s'opérer. La recréation, c'est un mot qui n'existe pas, hein, mais c'est juste pour dire qu'il y a une nouvelle, un renouveau. Nous avons un récit plutôt dans la Bible, dans la Genèse, celui de Noé, qui a été sauvé grâce à son arche et par qui l'humanité a été renouvelée. Alors le mot ici qui est utilisé pour désigner le panier qui contenait Moïse est exactement le même mot qui est utilisé pour l'arche de Noé. Et l'histoire est un peu similaire parce que de Moïse, un peuple nouveau, le peuple de Dieu, va renaître aussi quelque part. Moïse est donc celui qui va sauver le peuple et qui va instituer une alliance nouvelle entre Dieu et son peuple. Une autre promesse, celle de la délivrance. Lorsque vous lirez ces deux chapitres chez vous, le livre de l'Exode commence par une énumération des prénoms des tribus d'Israël venues en Égypte. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser et Joseph, qui était déjà en Égypte. Le chapitre 2 finit avec ces termes. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu connaît son peuple. Il l'a nommé. Il entend les gémissements, il entend les soupirs, il en a compassion. Il se souvint de son alliance, il est écrit. Non pas qu'il l'ait oublié, et qu'il se dise qu'il était un peu à la bourre, et qu'il fallait qu'il agisse vite. Non. Il se souvint, car il n'a jamais oublié, et il agit en son temps. Il a fallu 400 ans pour que le peuple se multiplie. Il a fallu des dizaines d'années, sans doute 40, pour préparer Moïse, et il faudra du temps encore pour sortir le peuple d'Égypte et l'amener en terre promise. Mais durant tout ce laps de temps, Dieu a agi en coulisses et il n'oublie pas ses promesses. Alors pour conclure, que pouvons-nous retenir de cette grande histoire que Dieu a écrite et qui continue d'écrire ? Je vous propose quelques points. Tout d'abord, il a fait des promesses qu'il a tenues. Une descendance innombrable à Abraham, un pays, un sauveur. S'il a tenu ses promesses jusque-là, à plus forte raison, il tiendra encore ses promesses aujourd'hui. Deuxièmement, Dieu connaît son peuple. Il l'appelle par son nom. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser et Joseph. Il connaît aussi chacun de nous parfaitement. Je ne vais pas citer tous vos prénoms, mais vous vous reconnaîtrez. Autre chose, Jésus a dit en Matthieu, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse ! Quelle promesse ! Comme Dieu le Père n'a pas abandonné son peuple, Jésus le Fils sera avec nous jusqu'à la fin. Ensuite, Dieu n'a pas été sourd face aux appels de son peuple, tout comme il n'est pas sourd à nos demandes, il n'est pas sourd à nos supplications. Quel encouragement surtout, par exemple, pour les chrétiens qui sont persécutés, notamment, mais aussi et surtout pour nous, aujourd'hui, qui traversons des épreuves difficiles. Ensuite, Dieu agit avec sagesse. Parfois, le peuple ne le voit pas. Parfois, nous ne le voyons pas. Nous ne savons pas qu'il agit. Mais il le fait. Et il le fait dans son temps, avec son propre timing. S'il agit de cette manière-là avec le peuple d'Israël, il agira de la même manière avec nous. Alors soyons sûrs qu'il ne l'oublie pas. Et soyons sûrs qu'il nous écoute. Alors soyons patients. En résumé, la somme de ces histoires individuelles, la somme de ces choix personnels, servent la grande histoire que Dieu écrit. Et de la même manière, pour Dieu, nos histoires ne sont pas vaines. Elles font partie de la grande histoire que lui est en train d'écrire. Voilà pour ces deux premiers chapitres et nous verrons la suite donc de cette grande histoire au prochain épisode. Je fais un petit teaser pour la suite. Prions.